a dû nous voir, il nous a offert l'espoir, c'est un bon commencement. La Je vous parle d'un temps. Je vous parle d'un temps.
Grand Corps Malade, invité de Sophie Torlotin dans RFI Midi, Grand Corps Malade qui signe la réalisation du film Monsieur Aznavour qui sort demain mercredi en salle. 13h30 ici à Paris, 11h30 en temps universel.
RFI Midi. Stéphane Genest.
Et dans une demi-heure, tout pile, le grand journal international de RFI Midi avec vous, Charlotte de Rouen. Bonjour Charlotte.
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Dans la prochaine édition, nous reviendrons largement sur le sommet des BRICS qui se tient à Kazan, en Russie. Un rendez-vous dont l'objectif est clair pour Vladimir Poutine, montrer au monde que son pays n'est pas isolé, un pied de nez aux Occidentaux et à leur politique. La Russie, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa loi sur les agents de l'étranger, une loi qui vise, selon la Cour européenne, à punir et intimider. Des tirs à balles réelles de l'armée chinoise ce mardi à une centaine de kilomètres de Taïwan, des exercices qui interviennent une semaine jour pour jour après des manœuvres d'encerclement à grande échelle de l'île. Ce rebond en Europe des ventes de voitures électriques, une bonne nouvelle pour les États européens pour tenter d'atteindre leurs objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre.
À tout à l'heure, Charlotte de Rouen, prochain journal, donc dans un peu moins d'une demi-heure, midi, temps universel. Et d'ici là, place à l'actualité européenne dans RFI Midi.
RFI Midi. L'Europe à midi.
Et on commence donc aux portes du continent, en Ukraine, puisque la guerre est à l'ordre du jour au Parlement européen ce mardi. Les eurodéputés, qui prévoient de voter une nouvelle aide à Kiev d'un montant de 35 milliards d'euros, et il est un sujet qui intéresse les pays européens, la possible arrivée de soldats nord-coréens en Ukraine pour soutenir les troupes russes. Le sujet n'en finit plus de faire couler de l'encre. En visite à Séoul, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, parle même d'actions imprudentes et illégales de la part de Moscou. Les services de renseignement sud-coréens et ukrainiens évoquent pour leur part une arrivée prochaine d'environ 10 000 soldats nord-coréens afin d'aider les forces de guerre russes. On en parle avec vous, Nicolas Roca. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes l'ancien correspondant de RFI en Corée du Sud. Vous suivez le dossier de très très près. On fait le point avec vous sur les dernières informations sur le sujet. Alors déjà, Nicolas, que disent les pays européens?
Alors pour l'instant, ils sont prudents, s'expriment au conditionnel et ne confirment pas officiellement les informations de Kiev et Séoul, à l'image de Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, qui assure que l'envoi de troupes nord-coréennes marquerait une escalade significative, une approche similaire à celle du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il s'est exprimé lors de sa visite en Ukraine la semaine dernière.
Ce ne serait pas une surprise, puisque le soutien de la Corée du Nord à l'effort de guerre russe est connu depuis longtemps. Ce serait néanmoins extrêmement grave, parce que ça ferait entrer le conflit dans une nouvelle étape, une étape escalatoire supplémentaire. Ce serait d'une certaine manière aussi une exportation par la Russie de ce conflit vers l'Asie.
Le chef de la diplomatie britannique est lui allé un peu plus loin. David Lammy, que vous avez cité Stéphane, a mis en garde Moscou lors de son passage à Séoul ce lundi. Il assure que Londres va travailler à une réponse commune avec la Corée du Sud, mais les mots les plus fermes viennent de Lituanie. Le ministre des Affaires étrangères a estimé qu'il fallait reconsidérer un éventuel envoi de troupes européennes pour venir en aide à l'Ukraine.
Et pourtant, Nicolas Roca, et la Corée du Nord et la Russie continuent de rejeter les accusations.
Oui, le représentant nord-coréen aux Nations Unies a parlé hier à New York de rumeurs infondées qui s'appuient sur des stéréotypes, une réponse similaire à celle apportée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
La Corée du Nord est notre proche voisin et notre partenaire avec lequel nous développons des relations dans tous les domaines. Et c'est notre droit souverain. Cela ne devrait inquiéter personne. Cette coopération n'est pas dirigée contre d'autres pays. Elle va se poursuivre. Nous voyons beaucoup d'informations contradictoires. Les Sud-Coréens disent une chose. Le Pentagone dit que cela n'est pas confirmé. Étant donné qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires, je pense que ces informations doivent être vues comme cela, contradictoires.
Alors Nicolas, que sait-on finalement de la présence de soldats nord-coréens en Ukraine ?
Les renseignements sud-coréens estiment que 1500 soldats sont déjà en Russie. Image satellite à l'appui, Séoul détaille l'arrivée du convoi de troupes et affirme que les membres de forces spéciales nord-coréennes vont ensuite se rendre très rapidement au front après une période d'acclimatation. Ces affirmations sont renforcées par plusieurs vidéos dont nous ne pouvons confirmer l'authenticité mais qui circulent sur les réseaux sociaux. Sur l'une d'elles, on y voit des hommes qui ressemblent à des nord-coréens en train de recevoir des uniformes et du matériel de la part de soldats russes. En tendant l'oreille, on peut entendre certaines expressions qui ressemblent aux coréens parlés au nord du 38e parallèle. Les autorités ukrainiennes ont aussi diffusé un questionnaire écrit en coréen et en russe afin que les soldats puissent choisir la taille de leurs uniformes. Des éléments qui viennent renforcer les accusations de Kiev qui estime que 10 000 militaires nord-coréens vont arriver prochainement en Ukraine. Séoul évoque de son côté le chiffre de 12 000 hommes.
Alors, 1500, 10 000, 12 000 soldats, on se perd un peu dans les chiffres, mais en tout cas, il y a bien une question qui règne, Nicolas Rocca. À quoi vont servir ces soldats?
Alors, pour Vladimir Poutine, l'avantage est clair. Cela permet de renforcer sa présence militaire sans pour autant faire appel directement à la population russe, une mesure qui pourrait être impopulaire. Concernant l'utilisation concrète sur le terrain, les hypothèses sont très nombreuses. Certains chercheurs imaginent que les forces spéciales vont se rendre immédiatement en Ukraine. D'autres estiment que les soldats nord-coréens risquent de déserter ou bien qu'ils ne sont pas adaptés à cette guerre où les nouvelles technologies sont omniprésentes. C'est le cas de Chris Monday. Il est spécialiste de la Russie et professeur à l'université Tongso de Busan, en Corée du Sud.
Qu'est-ce que ces troupes feraient sur place? Nous devons spéculer. Mais j'imagine que certaines seraient mobilisées pour monter la garde. Poutine ne veut pas d'une autre incursion sur le territoire russe. Il a donc besoin des hommes, des troupes pour garder la frontière. Une autre option serait de les envoyer à Koursk, à l'intérieur du territoire reconnu de la Russie. Ce serait une provocation moins importante.
Si cette présence nord-coréenne est avérée, en tout cas Stéphane, elle pose un vrai défi aux pays européens. Comment répondre à une implication directe de la Corée du Nord dans la guerre alors que les sanctions, surtout unilatérales, semblent n'avoir absolument aucun effet sur Pyongyang?
Un décryptage signé Nicolas Rocca dans RFI Midi. Merci beaucoup Nicolas. Et ce conflit en Ukraine, il va être nécessairement évoqué durant le sommet des BRICS. Il a commencé tout à l'heure à Kazan, en Russie, avec une ambition, celle de Vladimir Poutine, et elle semble claire. Le président russe veut montrer que son pays n'est pas isolé, malgré les nombreuses sanctions occidentales en marge de la guerre qu'il mène en Ukraine. Et justement, les dirigeants qui vont participer à ce sommet des BRICS vont-ils pouvoir arracher un plan de paix à Vladimir Poutine? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la guerre va s'inviter à ce sommet, comme l'explique Sébastien Boussois, spécialiste de la géopolitique.
Le fait que le sommet soit accueilli en Russie, évidemment, ça déséquilibre quelque part la possibilité de convier aussi à un moment l'Ukraine. Je pense que ça pourra se faire dans le contexte d'un futur sommet. Mais qui sait? En tout cas, le fait que tous ces pays se rendent en Russie, tous ces pays n'appliquant pas les sanctions, ne considérant pas le régime de Moscou comme un régime paria, évidemment que la question se posera. Des puissances qui ont longtemps été considérées comme des puissances de nuisance, des puissances aujourd'hui comme la Chine ou peut-être l'Inde, pourraient parvenir en tant que puissance régionale et internationale à parvenir à des accords de normalisation. La Chine reviendra avec l'idée à l'égard de la Russie qu'une guerre qui dure n'est pas quelque chose de bon dans sa priorité et dans celle des BRICS, le business et les relations économiques. Les routes de la soie, par exemple, sont quelque peu handicapées avec ce conflit entre la Russie et l'Ukraine.
En Ukraine, où la population a diminué de plus de 10 millions depuis l'invasion russe en février 2022, voilà ce qu'indique ce mardi l'ONU. Dans le pays où il y a quelques semaines, une nouvelle institution, INDEX, un centre culturel de recherche et de documentation sur la guerre, a été inaugurée à Lviv, devant quelques centaines de personnes, c'est dans l'ouest du pays. Un événement pour le moins important pour la communauté intellectuelle du pays qui continue, malgré la guerre, à informer sur le monde et sur les réalités historiques et quotidiennes qui sont celles de la société ukrainienne. Reportage de notre correspondante en Ukraine, Emmanuel Chaz.
Sous les applaudissements, Sacha Dovjouk, universitaire et directrice du Centre culturel et de recherche INDEX, accueille quelques centaines de personnes venues à Lviv dans le plus grand secret à l'occasion de l'inauguration officielle du Centre INDEX. Guerre oblige, les personnalités intellectuelles ukrainiennes se déplacent avec précaution et ne se réunissent que rarement en public et en nombre comme aujourd'hui.
Nous en sommes à la troisième année de guerre totale et à la 11e année de guerre russe contre l'Ukraine. Cela signifie qu'il est temps d'aller au-delà des projets faits dans l'urgence et de réfléchir au renforcement de nos institutions. Génération après génération, nous, Ukrainiens, sommes obligés de recommencer dans un contexte d'effacement de la tradition institutionnelle et de lacunes héritées du passé. Nous surmontons ces écarts grâce à la créativité et à la résilience.
Dans ce centre, des chercheurs, artistes et journalistes auront la possibilité via des bourses de développer leurs projets liés aux témoignages et aux archives sur la guerre. Des conférences et des expositions seront organisées avec ceux qui la racontent, la vivent et travaillent dessus. L'historien Timothy Snyder s'adresse en ukrainien à la foule pour souligner l'importance de ce moment.
Pendant longtemps, on ne s'est pas souvenu de l'Holodomor, il n'y a pas eu de conférences, de documentation dessus. Même pendant l'Holodomor, à l'étranger, des personnes comme Lena Rudnitska, qui tentaient de documenter et de relayer des informations, ont été ignorées.
C'est pour ne pas répéter ces angles morts dans l'historiographie ukrainienne que le Centre Index a vu le jour. Si l'Holodomor, l'une des grandes famines ukrainiennes orchestrées par Staline, a désormais sa place dans la recherche, Index compte donner la même visibilité à la guerre en Ukraine en gravant les événements historiques qui se jouent pour les générations futures, comme nous l'explique Sacha Dovzhuk.
C'est une nouvelle, indépendante ukrainienne institution qui va soutenir l'ukrainienne culture et intellectuelle.
Cette nouvelle institution soutiendra l'avant-garde culturelle et intellectuelle ukrainienne et fera tout pour que les témoignages du moment dans lequel nous nous trouvons, la guerre génocidaire de la Russie contre l'Ukraine, perdurent et soient accessibles non seulement à nous, mais aussi aux générations futures. Nous le faisons pour la justice, au sens le plus large du terme, car la justice n'a pas seulement une dimension juridique, elle comprend aussi une dimension historique et épistémologique. C'est la façon dont notre histoire sera finalement interprétée par les peuples d'Ukraine et au-delà de son territoire et de ses frontières, dans un an, 10 et même 50 ans.
L'un des parrains de la soirée d'inauguration n'est autre que le poète, écrivain et musicien originaire de Kharkiv, Serhiy Jadan. Il y a quelques mois, il s'est enrôlé dans l'armée ukrainienne et il est venu parler de l'importance du témoignage pour la postérité, même s'il confie la difficulté de la tâche lorsque les événements touchent d'aussi près ceux qui les décrivent.
Lorsque la guerre à grande échelle a commencé, j'ai essayé d'écrire un roman sur Kharkiv pendant l'été 2022, sur les premiers jours de la grande offensive. Et j'ai compris qu'il me manquait quelque chose, à écrire. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je n'arrivais même pas à respirer normalement. Il est très difficile de parler de ces choses qui nous entourent actuellement, qui nous arrivent dans une perspective au long cours, une perspective de longue haleine.
Ce soir-là, à Lviv, la guerre n'a pas retenti sous forme de missiles ou de drones, l'inauguration a pu se dérouler sans alerte aérienne. Un moment solennel et émouvant, car les personnes présentes ne font pas que décrire cette guerre, ils en sont les témoins et aussi les victimes. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
RFI Midi.
Stéphane Genest.
13h43. Ici, à Paris, et on évoque à présent cette tournée des Balkans occidentaux menée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle va l'entamer demain et elle va visiter chaque pays candidat à rejoindre l'UE, à savoir la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et l'Albanie. L'Albanie, précisément, qui a signé un accord avec l'Italie pour des transferts de migrants, et dans son duel face au juge, le gouvernement italien de Giorgia Meloni passe en force pour sauver sa politique d'externalisation des migrants après le blocage par la justice italienne du transfert des premiers exilés dans les nouveaux centres en Albanie. Un décret vient d'être adopté ce lundi pour contourner l'obstacle juridique et inscrire dans la loi les pays considérés sûrs pour justifier les expulsions rapides des demandeurs d'asile. À Rome, les précisions de Blandine Hugonnet.
La liste des pays sûrs, c'est la politique qui l'établit et non les tribunaux. Les points ont été mis sur les i ce lundi par le Conseil des ministres qui a adopté un décret qui inscrit dans la loi une liste controversée de 19 pays jugés assez sûrs par Rome pour y rapatrier les migrants. Un moyen de verrouiller le cadre, les règles à appliquer en Italie pour espérer contourner les normes européennes, en tout cas tordre le bras aux juges italiens qui estiment que les pays d'origine des exilés sont trop risqués pour les renvoyer. C'est selon ce critère qu'ils ont bloqué la semaine dernière la rétention des premiers transférés en Albanie, 12 Bangladais et Égyptiens. Un camouflet pour Giorgia Meloni qui n'a cessé de brandir cette externalisation comme un modèle innovant pour simplifier et accélérer les expulsions. Des juges accusés par l'extrême droite d'être politisés, Giorgia Meloni est dangereuse, riposte un magistrat qui alerte ses confrères. Une confrontation sur les centres en Albanie qui ne devrait pas s'arrêter là, car même avec ce décret-loi, préviennent les juristes, c'est bien la législation européenne qui prévaut malgré tout. alors que, comme le décrypte la presse ici, à travers ce duel sur le sort des migrants, en filigrane, les souverainistes italiens tentent d'imposer à Bruxelles leurs principes chers des Italiens d'abord. Blandine Hugonnet, Rome, RFI.
Les prisons se vident. Au Royaume-Uni, plus d'un millier de détenus anglais sont libérés ce mardi, cela de manière anticipée. Voilà un mécanisme d'urgence activé pour la deuxième fois en seulement 3 mois qui vise à alléger la pression en cas de surpopulation carcérale. Et en parallèle, le gouvernement tente de trouver des solutions de long terme pour soulager ce système pénitentiaire puisque la situation dans les prisons britanniques est un sujet récurrent, Emeline Vin.
La ministre de la Justice, Shabana Mahmoud, lance ce mardi une révision des condamnations pour explorer des pistes afin de soulager un système carcéral saturé. Par exemple, la fin des condamnations de courte durée, le renforcement des assignations à résidence, l'utilisation de technologies pour inciter les condamnés à ne pas manquer leur rendez-vous avec les services de réinsertion, l'une des principales causes de révocation de liberté conditionnelle, et puis l'introduction de peines spécifiques pour les violences de genre. Le député conservateur chargé de la révision, par ailleurs membre d'une ONG qui défend les réformes carcérales, doit rendre ses propositions l'année prochaine. Elles seront alors examinées par le Parlement. La réforme doit permettre de trouver des solutions de long terme à la surpopulation carcérale, tout en conservant un aspect dissuasif et en prévenant la récidive. En 3 mois et demi, le gouvernement travailliste a déjà dû autoriser la libération anticipée de 3000 détenus, ayant effectué plus de 40% de leur peine, y compris ceux qui purgent une incarcération de plus de 5 ans. Le projet de réforme s'ajoute par ailleurs à la promesse de l'exécutif de construire 14 000 nouvelles places de prison. Emeline Vin, Londres, RFI.
RFI Midi.
On part en Suède, puisqu'après avoir tout misé sur les écrans et les ordinateurs à l'école, le pays a commencé à faire machine arrière, et l'année dernière, en ramenant les manuels scolaires sur le devant de la table des écoliers. Et pour cause, scientifiques et professeurs avaient pointé du doigt une sérieuse baisse de niveau depuis la généralisation des ordinateurs dans les salles de cours. Ottilia Freire est partie faire un état des lieux dans une école primaire et un collège de Stockholm. Reportage.
Quand on demande aux plus jeunes s'ils préfèrent étudier sur une tablette ou avec un livre, la réponse est plutôt unanime.
Avec une tablette, c'est plus rigolo.
Oui, mais voilà, étudier uniquement sur un ordinateur, ça n'a pas eu que du bon, comme l'admettent volontiers Benjamin et William. Les deux collégiens viennent tout juste de sortir de cours avec sous le bras un ordinateur. Pas de sac à dos, pas de livre, pas de cahier, ni stylo.
Depuis la 6e, on faisait tout numériquement. On lisait en digital, on faisait nos devoirs sur une tablette, vraiment tout, les examens aussi.
C'est hyper facile de commencer à jouer aux jeux vidéo au lieu de bosser. Il n'y a qu'un clic à faire. J'avoue que j'ai même oublié comment s'écrivaient certains mots. On a pris l'habitude que l'ordinateur corrige automatiquement pour nous.
Et c'est là tout le problème. La dernière enquête du programme international pour le suivi des acquis des élèves montre que les jeunes Suédois ont perdu beaucoup de connaissances scolaires, notamment en mathématiques et en compréhension de l'écrit. Le pourcentage d'enfants de 10 ans éprouvant des difficultés à lire ou à écrire a bondi de 12 à 19% en 5 ans. Les neurologues et pédiatres pointent directement du doigt un usage excessif et trop précoce du digital. Et pour cause, depuis 10 ans, ordinateurs, tablettes numériques et autres écrans régnaient en maître dans les écoles suédoises. Pour la maîtresse Josefine Host, ils ont indéniablement leur part de responsabilité.
Leurs connaissances factuelles sont très volatiles. Ils se fient à Google, ils ont perdu toute notion d'effort. Le niveau s'est détérioré surtout en lecture, mais aussi en vocabulaire et même à l'oral. On remarque aussi qu'ils sont beaucoup plus fatigués lorsqu'ils travaillent devant l'ordinateur. Aujourd'hui, ils sont exposés aux écrans et aux ordinateurs partout. Je pense que l'école devrait être un lieu sans numérique ou alors qu'il soit réservé à des usages bien particuliers. On est allé trop vite en Suède. Même en maternelle, on parlait de donner des tablettes aux enfants. On aurait dû se préoccuper plutôt des effets à long terme.
Face à un niveau en constante baisse, le gouvernement a donc décidé de faire machine arrière. En 2023, il a investi 60 millions d'euros pour que chaque élève ait chacun son manuel scolaire.
Je sens qu'on est de retour sur le bon chemin et je suis contente qu'on mise de nouveau sur les manuels et les livres.
Un retour à des méthodes plus traditionnelles dont les élèves de Josephine, en 6e, discutent régulièrement entre eux.
Pour la science ou l'histoire, c'est plutôt des livres. En maths, on a aussi un livre, mais si on a terminé l'exercice, on peut bosser sur l'ordinateur.
C'est plus facile d'écrire sur l'ordi si on doit modifier son texte. Sur papier, il faut faire des ratures ou mettre du blanc. Donc pour écrire, l'ordi, on trouve ça mieux. Mais pour lire, c'est mieux avec un livre, ça fatigue moins les yeux. Mais on se souvient mieux de ce qu'on apprend si on l'écrit sur papier, je trouve.
Moi, sur l'ordi, je suis plus facilement déconcentré.
Ouais, moi aussi, pareil. Mais je pense que c'est bien d'avoir les deux, parce qu'il faut qu'on puisse se servir du numérique pour l'avenir, mais il faut aussi qu'on sache écrire à la main. Et on remarque carrément la différence. Avant, on utilisait beaucoup plus l'ordi qu'aujourd'hui.
Il est 15h, la cloche sonne, et les sixièmes se dirigent maintenant vers l'atelier manuel. Un cours qu'ils apprécient tout particulièrement. Un lieu aussi où on ne trouve pas la moindre trace de numérique.
On fait des porte-manteaux. Moi, je le fais en forme d'os de chien et je vais l'accrocher chez moi dans l'entrée.
Dans une société ultra-digitalisée comme en Suède, Jans, leur professeur de charpenterie, estime qu'il est primordial de continuer à apprendre aux plus jeunes des choses pratiques et techniques, comme savoir manier le bois.
Ça leur apprend aussi la tolérance et la patience. Ici, ils essayent, puis ils essayent encore jusqu'à réellement comprendre comment ça fonctionne. Ça les pousse à trouver des solutions. Ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils peuvent faire quelque chose de leurs mains et tout seuls, contrairement aux choses toutes faites comme les contenus numériques ou les jeux vidéo. Et ça, c'est important dans la vie.
Alors, il n'a jamais été question que le numérique disparaisse totalement de l'école. Il apprend simplement à cohabiter davantage avec les livres. Cette transition se fera sur plusieurs années. Mais en attendant, les élèves sont contents de ne plus être assimilés à la génération de cobayes numériques.
Le reportage d'Ottilia Ferré à Stockholm, reportage que vous retrouvez ce soir à 19h10 temps universel dans Accent d'Europe. Et quand vous le souhaitez, sur RFI.fr. Mais pour l'heure, il est 13h51 ici à Paris.
RFI à Craiova, 94 FM.
Et la COP16 se poursuit à Cali, en Colombie, avec un sujet incontournable, évident même, mais pourtant bien souvent mis de côté dans les négociations sur la biodiversité, le lourd impact de notre système de production agricole sur les plantes et les animaux de la planète. Et ce dossier va-t-il une nouvelle fois être ignoré durant cette COP? Eh bien, c'est notre question d'environnement. Avec vous, Jeanne Richard. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Les scientifiques sont clairs, on ne pourra pas sauver le vivant sans changer notre agriculture, d'autant que agriculture et biodiversité sont intimement liées.
La biodiversité a toujours été utilisée pour produire à manger, on en est dépendant pour vivre. Ce sont les insectes pollinisateurs, indispensables à 3 espèces cultivées sur 4, ou les vers de terre et les micro-organismes qui font la fertilité des sols, sans parler de la grande variété de plantes adaptées à leur terroir. Sauf qu'après la Seconde Guerre mondiale, nous avons fait entrer l'agriculture dans une ère d'industrialisation et d'artificialisation. À l'époque, il fallait augmenter les rendements pour nourrir le monde après 6 ans de guerre et de destruction. Aujourd'hui, ce mode de production est la première cause de l'effondrement du vivant. Attention, ce n'est pas l'agriculture qui pose problème, mais cette façon intensive de la pratiquer. Pesticides, mécanisation, engrais, immenses parcelles à nu, tout contribue à dégrader le sol qui se meurt. On se retrouve avec des ravageurs de plus en plus coriaces qui résistent aux pesticides, le tout avec un bilan carbone désastreux. Les systèmes alimentaires et la déforestation qui va avec représente 37% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On va droit dans le mur, il faut changer de modèle.
Alors Jeanne, est-ce que pour autant ça veut dire qu'il faut revenir en arrière à une agriculture peut-être un peu plus durable, mais aussi bien plus incertaine en termes de rendement et de qualité?
Bien non, la solution c'est l'agroécologie. Ce sont les techniques pour mieux utiliser la nature, optimiser les services qu'elle rend à l'agriculteur. La biodiversité n'est pas l'ennemi de l'agriculteur, au contraire, explique Selim Louafi du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
Ces nouvelles pratiques plus respectueuse de la biodiversité, cherche à valoriser en fait les éléments de la biodiversité présents dans les sols, parce qu'on a eu tendance à les voir uniquement sous un angle négatif, mais l'idée c'est justement d'amplifier, d'intensifier ces processus écologiques dans l'espace cultivé qui servent à maximiser la photosynthèse, contrôler les populations de bioagresseurs, réactiver les cycles nutritifs pour limiter l'usage d'intrants coûteux. Donc tout ça nécessite énormément de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies, et donc il ne s'agit pas d'un retour en arrière, comme c'est caricaturé souvent.
Et même si cette transformation du modèle agricole actuel est essentielle, Jeanne, le sujet est tendu, il est même loin de faire l'unanimité.
Les grands pays agricoles qui ont basé leur modèle économique sur l'exportation de cultures intensives sont réticents, c'est clair. Le Brésil, l'Argentine ou l'Inde, par exemple, d'autres, l'Europe notamment, ont des discours plus ambitieux, mais font face en interne à de puissants lobbies d'industries chimiques qui produisent engrais et pesticides, qui ont des moyens colossaux pour influencer les politiques et freiner la transition.
Question d'environnement et réponse d'environnement avec Jeanne Richard pour RFI.
RFI Midi. Un monde de tech.
Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Stéphane.
Et on s'intéresse ce midi sur le grand nombre d'images et de vidéos d'agressions sexuelles générées par l'intelligence artificielle qui ne cesse d'être créée. Des photos ou des vidéos si réalistes qu'il devient presque impossible de les distinguer des véritables scènes d'enfants abusés. Voilà l'alerte émise par Internet Watch Foundation, Dominique.
Oui, au Royaume-Uni, comme en Europe et dans la plupart des pays occidentaux, les textes législatifs interdisant la génération d'images à caractère sexuel réalisées à l'aide d'un programme IA génératif et leur partage en ligne s'accumulent, mais rien n'y fait jusqu'à présent. En vertu de la loi sur la sécurité en ligne de janvier 2024, la création, la détention à titre privé, le partage de ces clichés et clips vidéo ultra réalistes était une pratique illégale au Royaume-Uni. Si un internaute, par exemple, les partage ces images après les avoir créées, il est condamné à une peine de prison systématique. Des lois qui, en fait, n'ont strictement rien réglé, accuse aujourd'hui l'Internet Watch Foundation, l'une des principales associations de lutte contre la production et la diffusion d'images pédopornographiques en Europe.
Et la Fondation alerte sur la progression glaçante de clips vidéo pornographiques qui mettent en scène des enfants, Dominique.
Effectivement, glaçante à plus d'un titre, tant par leur nombre que par le réalisme des images générées par IA. L'association britannique qui avait reçu 70 rapports concernant la diffusion de ces hyper-trucages sur l'année écoulée entre avril 2023 et mars 2024 en a déjà reçu 74 en l'espace de 6 mois entre avril et fin septembre de cette année. La quasi-totalité de ces images se trouvait sur des sites ouverts, facilement accessibles au grand public, principalement hébergés en Russie, aux États-Unis et au Japon. Plus des trois quarts d'entre elles ont été directement signalées à l'association par des internautes après avoir été vues sur des forums ou des galeries d'images IA. Selon un analyste de l'organisation qui tient à rester anonyme par sécurité, l'augmentation de ces signalements donne l'impression que nous sommes arrivés à un point critique en insistant sur le risque que les ONG et la police soient submergées par des centaines de nouvelles images et sans pouvoir déterminer si un véritable enfant a véritablement besoin d'aide quelque part.
Et pire, Dominique, pour atteindre le niveau de sophistication de ces clips nauséabonds, les logiciels d'intelligence artificielle ont dû apprendre à partir d'images et de vidéos réelles d'agressions sexuelles sur des mineurs.
Oui, et c'est peut-être la partie la plus sombre du problème. Comment les grandes firmes de l'IA ont-elles pu donner un accès sans contrôle à leur programme d'entraînement à des groupes de cybercriminels qui se sont lancés dans une production quasi industrielle des logiciels d'hypertrucage pédopornographique? Pour toutes ces raisons, l'Internet Watch Foundation demande instamment aux députés britanniques de réviser la loi sur la protection des mineurs. Le sujet est à l'ordre du jour aussi du côté de la Commission européenne qui a lancé ce 15 octobre un appel d'offres doté de 4 millions d'euros et ouvert jusqu'au 18 novembre prochain pour élaborer dans un premier temps une solution à court terme de vérification de l'âge préservant la vie privée des internautes de l'UE.
Merci beaucoup Dominique Dezonnet. Dans deux minutes, un nouveau journal. Dans une demi-heure, Afrique Midi avec vous Nicolas Sûr. Bonjour Nicolas.
Bonjour Stéphane.
Et à la une.
Paul Biya de retour au Cameroun. Son absence au cours des dernières semaines a alimenté les spéculations quant à son état de santé. Et ses prochaines apparitions seront à n'en pas douter très scrutées. Et puis le projet de nouvelle constitution a été dévoilé hier soir au Gabon. Il consacre un régime présidentiel et une stricte limitation du nombre de mandats. Le texte sera soumis à référendum le 16 novembre prochain.
Afrique Midi, midi et demi, temps universel, toute l'actualité du continent africain. Merci Nicolas Sûr, on vous retrouve tout à l'heure. Feu Chatterton, que l'on écoute ensemble avec le morceau Un Monde Nouveau, sorti en 2021.
Un vent, un grand vent nouveau, souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les sprites, c'était à n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Ça
monde de demain, on le bégayait tous, sans y comprendre rien, à la loi nouvelle des éléments, qui nous foutait la frousse. Pousse les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue, nous étions pris fesses.